Image, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Ce mercredi, et nous nous retrouvons ce mercredi en compagnie d'Evelyne, Evelyne Merlard, qui nous vient pour la librairie L'Inédite à Genève, que vous connaissez bien puisque c'est notre rendez-vous mensuel. Et Evelyne, aujourd'hui, nous a porté un livre, L'Africaine, dont je vous avais annoncé la venue la semaine passée. Donc, nous partirons en Afrique pour parler de l'Afrique d'autrefois, l'Afrique d'aujourd'hui, fort mouvementée lors de ces derniers jours. Mais tout d'abord, quelques petits disques clin d'œil, entre autres pour vous annoncer quelques manifestations qui nous semblent fort intéressantes du point de vue de la musique. C'est par exemple Ella Fitzgerald qui va venir à Montreux lors du festival cette année, 17 juillet. Si vous pouvez y aller, ça vaut le coup, Ella Fitzgerald.
Ba 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 ba
Alors à Montreux, vous l'entendrez tout à fait comme ça, parce que même si aujourd'hui elle a un petit peu de peine à marcher, si elle chante assise, eh bien toute sa force d'improvisation, comme vous venez de l'entendre, est toujours aussi force. Ella Fitzgerald est toujours aussi merveilleuse, alors pourquoi pas s'offrir ce magnifique concert à Montreux cette année, Ella Fitzgerald. Et puis ce week-end, beaucoup plus proche de nous d'ailleurs, si vous voulez aller au Jazz Parade à Lancy, qui fête son 10e anniversaire, eh bien vous entendrez aussi une autre grande chanteuse que nous aimons beaucoup, c'est Didi Bridgewater.
I called you up, you turned me down, and now I'm crying. God made me strong, so what went wrong? Cold thoughts are flying. My heart beats lonely to the bar. My eyes are hazy. Can't seem to focus anymore. Just want to see you, baby. And all around I hear a sad, uncertain sound. Another sunset blue. The silent room has seen it all. I look around and all I can see is you and me and all that we planned. Outside the world is in slow motion as it drags by, and sunlight streams through broken dreams as if to wonder why. I pace the floor and cry some more behind the door. Another sunset hue. Sad, lonely blue, sunset red, seeming through to the night, and I'll cry to the stars. No one to blame, but we're strange.
Sunset and Blue avec Didi Bridgewater ce week-end au Lancy Jazz Parade à Genève, si vous en avez envie.
Je suis une Africaine arrachée à sa savane. J'erre comme ces lionnes dans des cages glacées. Oublié pour la rentabilité et aussi pour la culture, pour la caricature. Je suis une Africaine. Je suis une Africaine exilée à Paris pour des notes lesbiennes et des mots sans abri. Je suis une Africaine.
Ça, c'était Lucide Beausongue et son Africaine à elle. Et nous, nous allons commencer à parler de l'Africaine d'Anne-Marie Dauteville. Alors, Evelyne, tu as découvert ce nouveau livre pour nous présenter ce mois. Comment t'es-tu intéressée en particulier à ce livre-là?
Eh bien, de quelques années auparavant, j'ai un peu travaillé sur l'Afrique. Et évidemment, la première chose qui m'a parler, c'était le titre, l'Africaine. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et je l'ai ouvert et je l'ai trouvé très intéressant. Donc, il vient d'être publié aux éditions Orban. C'est un livre de 261 pages, donc d'Anne-France Dauteville, et intitulé « L'Africaine ». C'est une biographie romancée de Mary Kingsley. Mary Kingsley est une demoiselle victorienne, enfin c'est un personnage de l'époque victorienne anglaise. Donc c'est une femme du 19e siècle et c'est peut-être important de le souligner parce que elle n'arrivera jamais à être autre chose en fait qu'une femme du 19e siècle par rapport à nous femmes aujourd'hui. Ça s'expliquera mieux par la suite ce que je dis maintenant. Donc Mary Kingsley est une enfant qui naît un peu d'une faute. Son père est un gentleman anglais, il a appris la médecine, mais ce qui l'intéresse surtout sont les voyages autour du monde. Et bon, il a fait un enfant à, si on peut dire, sa cuisinière, et il l'épouse parce qu'il pense qu'il doit, effectivement, c'est ce qu'il faut faire.
Ça se fait pas à l'époque de vivre sans femme, hein, j'imagine à un certain niveau social.
Non, mais il y a apparemment, il y a peu d'amour dans cette union. Il y a plus de hasard que d'amour. Mais enfin, d'après les documents historiques, Mary Kingsley est née 4 jours après le mariage de ses parents, chose qu'elle a découverte assez tard d'ailleurs. Bon, ce qui veut bien dire la situation. Et dès qu'il est marié, son père, qui a déjà beaucoup voyagé, repart immédiatement et abandonne sa jeune femme, qui ne tardera pas d'ailleurs à sombrer dans un désespoir dont elle sortira pas. Elle, c'est une femme qui, petit à petit, va s'enfermer chez elle. Ça va être une sorte de morte vivante. Et c'est sa petite fille qui, bon, va grandir aussi petit à petit, qui va lui être toute dévouée et s'occuper d'elle. En fait, là, c'est la petite fille qui va être l'adulte. Il y aura un deuxième enfant. On se demande un peu comment il a été fait aussi. Marie dit quelque part dans le livre qu'il a sûrement été conçu un jour de pluie quand le père s'ennuyait. Enfin, il y a un petit garçon qui naît par la suite et dont Marie s'occupera aussi. Puisque son père est pratiquement toujours absent, c'est elle qui, en tout cas à partir de l'âge de 5-6 ans, va s'occuper de sa mère, de son frère, etc.
Mais peut-être avant que tu continues, toute cette histoire de Mary Kingsley a véritablement existé. C'est un vrai personnage. C'est pas qu'un livre de fiction, un personnage de fiction qu'aurait imaginé Anne-France d'Hauteville.
Non, pas du tout. Anne-France d'Hauteville est allée à Londres et elle a fait des recherches, entre autres au British Museum et à l'Académie des sciences, et elle a trouvé beaucoup de documents historiques pour donner les structures de ce qu'elle appelle un roman, mais qui est quand même une biographie, qui est une biographie romancée. C'est absolument un personnage authentique. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt. Bien que...
Alors on se dit qu'elle est assez représentative de quelqu'un qui a réellement existé à cette époque-là, où la situation de la femme, effectivement, dans l'Angleterre victorienne n'est pas particulièrement... vivante.
Oui. Bon, son histoire est assez extraordinaire parce que c'est une petite fille dont on s'occupera peu au fond et qui a une incroyable soif d'apprendre, qui apprendra tout toute seule. Elle n'ira jamais à l'école. Elle se révoltera contre une société qui n'envoie pas, qui n'éduque pas les filles parce que son frère, qui est beaucoup moins intéressant, dont personne n'a jamais fait la biographie, qui n'a pas laissé d'écrits spéciaux. Son frère, comme elle le dit quelque part, on a payé 20 000 livres pour son éducation. Alors que Mary, on ne l'a jamais envoyé dans aucune école. Donc elle a appris tout seul grâce à l'extraordinaire bibliothèque de son père, il est vrai. Mais encore, fallait-il être capable d'assimiler tous ces bouquins. Et elle a appris elle a appris autant les mathématiques que la chimie, le latin, les langues étrangères, l'électricité. Elle s'est intéressée absolument à tout. Et alors, bon, la bibliothèque a été une de ses sources de savoir, de connaissances. Et puis le jardin aussi de son enfance. Et c'est là qu'elle a appris la biologie, la zoologie. Enfin, elle a vraiment étudié. Elle avait la chance d'avoir de temps en temps des amis de son père qui voulait bien lui parler. Elle posait des questions. Elle posait des questions aux jardiniers aussi. Et des gens qui ont bien voulu lui parler et l'aider un peu, disons, dans sa recherche. Mais c'est un effort intellectuel solitaire extraordinaire. Et c'est déjà une des raisons pour laquelle elle est intéressante. Parce qu'elle aurait pu très bien se comporter comme les demoiselles victoriennes de son époque, qui, elle en fait d'ailleurs un portrait assez terrible à un moment donné, qui se contentent de savoir quelques poèmes de Tennyson, qui lisent des romans à l'eau de rose, qui remettent jamais en question leur rôle d'épouse dévouée et discrète dans la maison, qui n'ont aucune imagination, comme elle le dit. Elle dit d'ailleurs, l'Angleterre est une grande nation parce que ces femmes n'ont pas d'imagination. Alors comme ça, et ne réclament rien. Donc les hommes ont toute leur tranquillité pour vaquer à leurs affaires, construire des empires coloniaux. Bon, les femmes ne les embêtent pas, parce que ces femmes manquent d'imagination. Elles sont là et puis elles remettent rien en question. C'est pas du tout son cas.
Mary Kingsley va faire cette réflexion-là à quel moment de son existence? Parce qu'il faut un sacré recul quand même pour arriver à comprendre ces phénomènes alors qu'elle vivait dans un monde assez restreint finalement.
Oui, ça, elle le dit quand elle a déjà 35 ans. Il faut dire qu'elle est, elle est restée en Angleterre et dans sa famille jusqu'à l'âge de 30 ans. Et elle a vraiment vécu entre l'âge de 30 et 37 ans, ce qui est peu par rapport à ce qu'on pourrait espérer d'une vie. Mais c'est cette année-là, elle les a vécues principalement en Afrique et avec une intensité extraordinaire.
Tu veux dire par là que jusqu'à 30 ans, elle est restée dans sa famille à s'occuper de sa mère, de son frère, comme tu disais, cette prise en charge familiale que ne faisait pas son père ni sa mère.
Oui. D'abord sa mère qui nécessitait des soins constants parce que, comme j'ai dit, elle s'était enterrée vivante dans sa maison. Et l'âge avançant, elle avait maladie, etc. Donc elle était là pour soigner sa mère. Et sa mère a quand même survécu à son père. Son père a vieilli entre-temps, il s'était marié assez tard, et il est mort, et sa mère n'a pas survécu à la, si on peut dire, la mort d'un homme qu'elle avait passé sa vie à attendre. La même année, donc, Marie a perdu ses deux parents, et son frère a décidé de partir en Extrême-Orient. Lui aussi, il avait hérité de la passion des voyages de la famille. Donc, n'ayant plus à s'occuper de personne, elle s'est sentie libre. Et ça faisait longtemps qu'elle rêvait de partir, mais elle n'osait pas, elle l'aurait jamais fait tant qu'elle avait des devoirs, disons. C'était d'abord une femme de devoirs. Dans ce sens-là, je dis que c'est aussi une femme du 19e siècle, parce qu'elle se révolte en disant « on devrait éduquer les petites filles, c'est pas juste que les filles, nous sommes aussi intelligentes que les hommes, qu'on nous laisse comme ça incultes ». Mais elle ne se jette pas non plus dans les bras des féministes. Elle n'aime pas tellement les suffragettes anglaises qui sont assez célèbres à l'époque d'ailleurs. Parmi les femmes victoriennes, il faut pas oublier, toutes n'étaient pas justement des sages épouses. Il y a quand même les suffragettes. Mais elle n'est pas, c'est pas non plus son milieu. Elle est trop solitaire, je crois. Elle est trop différente. Elle a de la peine à se greffer sur un groupe. Alors elle prend une espèce de troisième voie, celle de la femme qui s'est faite toute seule et qui, bon, va partir à l'aventure toute seule. En général, elle sera entourée d'hommes. Parce qu'en Afrique, en plus, il n'y a pas beaucoup d'Européennes à l'époque. Il y a les femmes des administrateurs coloniaux, quelquefois, des femmes de missionnaires, mais c'est à peu près tout. Personne, les blanches, se risquent pas tellement dans ces contrées pour des raisons de maladie, de convenance, etc. Mais elle n'aura pas peur d'y aller.
Mais en plus, pas peur d'y aller par rapport à tout ce qu'elle doit affronter, mais y compris par rapport à un statut social quand même. Parce que même si elle ne se réclame pas des suffragettes, à 30 ans, j'imagine, à cette époque-là, dans les convenances sociales de l'époque, une femme devait être mariée, avoir des enfants. Elle est vraiment une vieille fille pour la société dans laquelle elle vit et qui, en plus, se permet de partir à l'aventure comme ça.
Elle est une vieille fille. Et d'une certaine manière, bien qu'elle tombera amoureuse de quelques hommes, Elle a laissé de côté, disons, cette partie de la vie. Les hommes qu'elle a rencontrés ne l'ont pas si intéressée. Elle était peut-être trop intelligente, trop spéciale dans son milieu. Et puis elle avait ses devoirs avec la famille qui faisait qu'elle n'a peut-être pas songé non plus. Et comme elle disait, on lui a rien appris. On lui a pas appris la coquetterie non plus. On lui a pas appris ce que c'était qu'être une femme. Donc elle ne sait pas séduire non plus, au moins à la manière des femmes de son temps. Donc il lui reste le plaisir d'aller à l'aventure et elle veut s'amuser aussi. C'est extraordinaire, une femme qui en fait a vécu très modestement et qui tout d'un coup s'ouvre, elle va à l'autre extrême en fait. Elle fait des descriptions de l'Afrique et l'intense joie de vivre de ses habitants, leur façon de vibrer d'une manière extraordinaire. On sent que c'est une femme pleine de chaleur, mais qui pendant, peut-être, oui, vu sa situation sociale, et bon, n'a jamais pu exprimer en fait des choses extraordinaires qu'elle a en elle. Donc elle essayera de faire ça pendant ces 7 ans passés en Afrique.
Mais elle ne partira pas que pour s'amuser quand même en Afrique. Bien sûr, elle a du temps à rattraper tout ce qu'elle n'a pas vécu pendant le temps où elle s'est occupée de ses parents. Mais en même temps, maintenant, elle a aussi envie quelque part d'être utile.
Oui, elle dit « je ne vais pas être une vieille fille qui se balade comme ça, balade ses jupes de par le monde. » Non, il faut que j'ai une raison objective de voyager. Alors grâce à des relations avec des amis de son père, etc., elle obtient du British Museum une mission du département de zoologie. On la charge de ramener des poissons, des lacs et des rivières d'Afrique. Donc elle a toute une collection de petites fioles avec du formol, etc., où elle va mettre les spécimens qu'elle rencontre. Et d'ailleurs, elle aura beaucoup de succès dans cette partie scientifique de sa mission.
Donc en fait, on lui fait confiance quant à sa formation de biologiste sur le tas.
Ah oui, elle impressionne les gens par sa culture encyclopédique qu'elle a acquise, je répète, absolument toute seule. Mais avant de partir vraiment pour l'Afrique, elle est obligée de faire un premier voyage, je dirais, d'apprentissage, d'aventurière. Elle va jusqu'aux Canaries et pendant une semaine, et elle apprend la mer, elle ramène des îles Canaries un rapport sur le commerce local et l'industrie. Elle a pris des tas de renseignements sur la manière dont on voyage, puisqu'en fait, elle n'avait jamais voyagé. Et c'est après cela qu'elle s'embarque pour l'Afrique. Et ses premiers informateurs, et les plus, peut-être les plus importants, vont être des commerçants qu'on appelle à l'époque les ruffians de la palme.
Juste avant que nous parlions un peu plus précisément des ruffians de la palme, dis-moi juste encore une chose. Est-ce que Anne-France d'Hauteville, elle est allée chercher, donc qui est l'auteur de ce livre et de cette biographie de Mary Kingsley, si elle est allée rechercher ces informations au British Museum, c'est que à cause des travaux qu'a fait Mary Kingsley pour le British Museum ?
Oui, et au British Museum, on peut voir les collections de poissons qu'elle a rapportées. On peut voir des lettres scientifiques qu'elle a écrites aux conservateurs à l'époque. Et bien autre chose.
Est-ce qu'elle se voulait, Mary Kingsley, est-ce qu'elle se voulait ethnologue ou journaliste, par exemple ? Enfin, quel était un peu le sens de ses travaux ?
Elle se voulait ethnologue aussi. Enfin, elle se voulait. Elle a lu des livres d'ethnologie et puis elle a récolté beaucoup d'informations de type ethnologique dans ses voyages. Et ça, au fond, ça lui a donné une connaissance de l'Afrique et surtout une vue complètement différente de la plupart de ses contemporains les contemporains mâles en tout cas, qui sont en train de dépecer l'Afrique, qui sont en train de la coloniser consciencieusement et outrageusement. Et il y a des tas d'opinions racistes qui circulent, très courantes à l'époque. Enfin, les Africains sont des nègres paresseux, buveurs, polygames, etc. Enfin, tous les stéréotypes qu'on connaît qui circulent. Et elle va voyager, voir les choses d'une manière tout à fait différente et ramener ces informations en Angleterre et essayer de lutter contre cette manière de voir l'Afrique et les Africains. Et elle va se faire, à partir de son premier voyage, la championne, si on peut dire, de la cause des Africains en Angleterre. Elle va se battre vraiment pour qu'on publie des livres, des articles, qu'on écoute ses conférences et qu'on ait une autre manière de voir. Bon, on peut dire que sa voix est certainement restée assez minoritaire, mais au moins elle a été ce personnage-là.